Soyez les bienvenus sur Inter, il est 7h30. Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un vote historique aux États-Unis aujourd'hui. La Chambre des représentants s'apprête à voter la mise en accusation de Donald Trump dans l'affaire ukrainienne. Nous serons à Washington en début de journal. En France, le gouvernement, lui, est à la recherche d'une porte de sortie. Le nouveau monsieur retraite a été nommé la nuit dernière. Jean-Paul Delevoye, lui, attend de voir si son cas sera transmis ou non à la justice. Précision à venir du service police-justice. À suivre également le retour de l'affaire Grégory devant les tribunaux avec un risque d'annulation d'une grande partie des pièces du dossier. L'île de Saint-Martin bloquée par la colère de ses habitants vent debout contre un nouveau plan de prévention des risques. Et puis des combats de sabre laser pour terminer avec le dernier épisode de la saga Star Wars.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne.
France Inter.
Et il va devenir, Sébastien, le troisième président de l'histoire américaine visé par un procès en destitution.
Donald Trump sera officiellement mis en accusation aujourd'hui. Ce sera le troisième président dans cette situation après Johnson au 19e siècle et Bill Clinton en 1998. Richard Nixon lui avait démissionné avant le vote de la Chambre des représentants. La Chambre qui doit donc se réunir ce soir vers 22h. Sans surprise, les démocrates qui y sont majoritaires vont voter pour les deux chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave au fonctionnement du Congrès. Concrètement, il est reproché aux locataires de la Maison-Blanche d'avoir fait pression sur le président ukrainien en échange d'informations sur Joe Biden, le rival de Trump à la présidentielle. Cette procédure, on le sait, a très peu de chances d'aboutir. Tous les républicains sont mobilisés. À Washington, Gregory Phillips.
Cette enquête, c'est une imposture totale, dit Donald Trump dans le bureau ovale, alors qu'il reçoit hier après-midi midi, le président du Guatemala. Une heure plus tard, la Maison-Blanche rend publique une lettre de 6 pages que le président vient d'adresser à la speaker de la Chambre, Nancy Pelosi, qui l'accuse de miner la démocratie. Une procédure plus équitable a été accordée aux accusés du procès des sorcières de Salem, écrit furieux le 45e président des États-Unis. Le ton est à peu près identique chez les élus républicains. Le sénateur McConnell parle de procès politique. Et chez les supporters de Trump, comme Ellie, rencontrée la semaine passée dans le New Hampshire. Tous ces témoins que les démocrates ont convoqués ont tous confirmé qu'il n'y avait aucune preuve d'échange de services avec les Ukrainiens. Aucune preuve. Tout à l'heure à la Chambre, aucun des 197 représentants républicains ne devrait voter cette mise en accusation du président. Au Sénat, largement dominé par le camp conservateur, même unité, et il n'y a quasiment aucune probabilité que le procès de Donald Trump, qui pourrait avoir lieu dès janvier, aboutisse à sa destitution. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Il est 7h33 et l'information de la nuit, Sébastien, c'est la nomination d'un nouveau monsieur retraite au gouvernement.
La nouvelle est tombée vers 1h du matin. Le nouveau secrétaire d'État s'appelle Laurent Pietraszewski, un député du Nord, marcheur depuis le début du mouvement, inconnu du grand public, spécialisé dans la gestion de carrière et le recrutement chez Auchan depuis 10 ans. L'exécutif n'aura même pas mis plus de 2 jours avant de remplacer Jean-Paul Delevoye, dont le sort est désormais entre les mains de la Haute Autorité de la transparence, qui doit décider aujourd'hui si elle transmet ou non le dossier à la justice. Ce ne serait pas une première, Ariane Grissel.
En 6 années d'existence, la Haute Autorité a transmis 73 dossiers à la justice. Une cinquantaine d'enquêtes sont toujours en cours, mais 12 de ces transmissions ont déjà abouti à des condamnations. Parmi les plus emblématiques, celle du secrétaire d'État Thomas Thévenoud et sa prétendue phobie administrative, 1 an de prison avec sursis, ou celle de Yamina Benguigui, ministre de la Francophonie du gouvernement Hérault, 2 mois de prison avec sursis pour d'importantes omissions dans sa déclaration de patrimoine. Dans le cas de Jean-Paul Delevoye, le procureur de Paris a demandé des précisions à la Haute Autorité. Autrement dit, d'essayer de voir si ce sont des oublis jugés assez graves pour que l'affaire prenne un tour judiciaire. Le parquet pourrait se saisir d'office, mais la Haute Autorité étant indépendante, il s'en remet à son avis. Si le collège décide qu'il s'agit bien d'une omission dite substantielle et transmet le dossier à la justice, Jean-Paul Delevoye risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Ariane Grissel, le nouveau monsieur retraite Laurent Pietraszewski sera présent ce matin, lui, au Conseil des ministres. Il sera là aussi cet après-midi à Matignon pour la reprise
du dialogue avec les syndicats. Après les manifestations d'hier qui ont rassemblé 615 000 personnes selon la police sur tout le territoire, les partenaires sociaux reçus tous un par un par Édouard Philippe, 50 minutes chacun à partir de 14h. Sans attendre ces discussions, la CGT, Force ouvrière, Solidaire et la FSU appellent déjà à des actions locales dès demain. Parmi les nouveaux modes d'action envisagés, des coupures de courant. Au total, 170 000 foyers privés d'électricité entre lundi soir et mardi matin en Gironde, à Lyon, Nantes ou Orléans. Des coupures revendiquées par des militants CGT, mais qui ont parfois des conséquences lourdes pour certaines entreprises, comme par exemple à Boulogne-sur-Mer, cette société qui vend du poisson fumé et qui a perdu une journée entière de production.
Pour la qualité de nos produits, on est obligé d'avoir des chambres froides à moins de 4 degrés et on était vraiment en limite, donc on était à deux doigts d'être obligé de jeter beaucoup de marchandises. Après, on a tout sauvé, voilà, et on a perdu beaucoup de clients. On a été dans la capacité de faire partir nos commandes. Tous les transporteurs étaient bloqués aussi. On a perdu quasiment une journée de production sur la plus grosse semaine de l'année. On fait quasiment l'équivalent d'un mois de juillet sur une semaine. C'est une volonté de nuire, de faire ça indépendamment de tous les problèmes informatiques qu'on a eu au redémarrage. C'est de l'incompréhension, c'est pourquoi faire ça? Bloquer l'économie locale comme ça a été fait, hein, parce que c'est au-delà de notre cas, tout le monde a été plus ou moins touché. Qui est-ce qui gagne à la fin d'une journée comme ça? Je pense personne.
Le directeur de la société JC David à Boulogne avec Emmanuel Bouin. Aujourd'hui, 14e jour de grève, prévision légère amélioration, un TGV sur 3, un Transilien sur 4, 4 TER sur 10 et trafic toujours très perturbé à la RATP avec 8 lignes de métro totalement fermées. Une importante actualité judiciaire aujourd'hui de la prison ferme requise dans l'affaire du saccage du péage de Narbonne par des gilets jaunes. On y reviendra dans le journal de 8h. Réquisition attendue ce matin dans le procès en appel pour fraude fiscale des époux Balkany. Et puis cette audience dans l'affaire Grégory qui pourrait fragiliser tout le dossier. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris examine la validité de la garde à vue de Muriel Boll en 1984. Les explications de David Di Giacomo.
Les accusations de Muriel Boll vont-elles complètement disparaître du dossier? C'est l'enjeu des débats très techniques qui vont se tenir cet après-midi autour de la garde à vue de l'adolescente. En février dernier, la cour de cassation a jugé cette garde à vue inconstitutionnelle parce que Muriel Boll a été interrogée sans la présence d'un avocat et sans qu'on lui notifie son droit au silence. Résultat, ses défenseurs réclament aujourd'hui l'annulation de sa garde à vue, mais aussi de 200 actes qui en découlent, de quoi fragiliser toute l'ossature de cette enquête vieille de 35 ans. De son côté, François Saint-Pierre, l'un des avocats des parents de Grégory, soutient qu'on ne peut pas, dans cette affaire, effacer l'histoire et gommer les accusations de Muriel Boll, même si cette dernière se rétractera pour ensuite ne plus jamais désigner Bernard Laroche comme le kidnappeur de l'enfant. Les parents du petit Grégory espèrent toujours connaître la vérité. Ils attendent la poursuite des investigations.
David Di Giacomo.
Et à 7h38, direction l'île de Saint-Martin, bloquée depuis près d'une semaine par des manifestations de colère.
Saint-Martin qui vit au rythme de barrages, de barricades en feu depuis jeudi dernier, depuis la révélation d'un nouveau plan de prévention des risques naturels. Un plan qui redéfinit les nouvelles zones rouges inconstructibles et cela 2 ans après les ravages de l'ouragan Irma. C'est la crainte de certains habitants d'être exproprié qui a mis le feu aux poudres, Thibault Lefèvre.
Des manifestants masqués, souvent très jeunes, qui montent et enflamment des barricades, essentiellement dans les quartiers populaires de Quartier d'Orléans et de Sandy Grand. Arnaud Ferron est installé depuis 20 ans à Saint-Martin.
C'est du jamais vu, non? Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent, des carcasses de voitures, des pneus, des poubelles. Ils mettent le feu toute la journée dans les différents barrages. C'est un peu le jeu du chat et la souris. Entre les manifestants et les forces de l'ordre, il y a plusieurs personnes qui se sont fait racketter. Il faut quand même faire attention pour éviter le caillassage de certaines voitures quand on se déplace dans certains points chauds.
Les manifestants demandent l'abandon pur et simple du nouveau PPRN. Ils sont soutenus par les élus de la collectivité et leur président Daniel Gibbs. Ils veulent continuer à pouvoir vivre, travailler et surtout construire sur les littoraux.
La population dans son entièreté a exprimé malaise qui la dépossède de son patrimoine et donc de sa capacité à se développer. Nous sommes une île qui vivons à 95% du tourisme. Tous les territoires autour de nous sont des îles entourées d'eau. Nous sommes les seuls à être contraints sur ce volet, à ne pas pouvoir faire un certain nombre de développements sur le bord du littoral. Nous sommes dans un monde économiquement concurrentiel par rapport aux autres.
Le gouvernement, par la voix de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, s'est dit prêt à revoir sa copie.
Thibaut Lefèvre.
Et on termine, Sébastien, avec la sortie de la semaine au cinéma, sortie planétaire pour une saga mythique.
Le dernier né de Star Wars sort officiellement sur tous les écrans du monde aujourd'hui. Un dernier opus pour clore officiellement la saga commencée il y a 42 ans. Et oui, Nicolas, vous aviez 6 ans à l'époque. C'est le troisième épisode de la troisième trilogie que notre spécialiste maison a pu voir en avant-première. Il a aimé, mais attention, il va falloir se mettre à la page pour recoller les morceaux. Mathieu Culeron.
Dès le début du film, dans le célèbre résumé déroulant jaune, et comme le suggéraient les récentes bandes annonces, on apprend que l'empereur Palpatine, maître du côté obscur de la Force, a survécu. Celui qu'on pensait vaincu par Dark Vador à Luke Skywalker dans l'épisode 6 de la première trilogie est en fait en train de reconstruire un nouvel empire du mal sur une lointaine planète. Rey, l'héroïne, poursuit quant à elle son entraînement de maître Jedi grâce à Leia, la chef de la rébellion. Le rythme du film est soutenu, intense, les décors très variés s'accumulent. Daisy Ridley, qui incarne Rey, est magistrale. Adam Driver, dans le costume de Kylo Ren, semble lui plus absent. Le cœur de l'intrigue qu'on ne divulguera pas demeure le questionnement autour de l'origine de Rey. Qui est-elle? D'où vient-elle? D'où vient son pouvoir? N'aie pas peur de ce que tu es, ce pourrait être le sous-titre de cet ultime épisode de Star Wars. Après 42 ans d'existence, la saga a réussi sa sortie. J.J. Abrams multiplie les allégeances et les clins d'œil à la première trilogie. L'esthétique est soignée, l'humour présent. La boucle semble bouclée jusqu'à l'ultime image du film. L'enjeu était immense, satisfaire une génération entière et faire en sorte que le petit garçon de 6 ans qui avait vu l'épisode 4 en 1978 retrouve un peu de sa jeunesse aujourd'hui au cinéma devant ce 9e et dernier épisode de Star Wars à l'âge de 47 ans. We'll always be with you.
Bon film, donc peut-être selon Mathieu Culeron, mais est-ce pour autant un bon final? La critique du dernier Star Wars, aussi à retrouver sur franceinter.fr, garantie sans divulgachage.
Merci Sébastien Legénie.